Puis du 36, sais-tu pourquoi je sais que c'est pas encore le printemps, Pascal?
Dis-moi.
Parce qu'on ne m'a pas encore rapporté l'ouverture des terrasses sur chemin de la Canardière.
Sur chemin de la Canardière.
Dans Saint-Pascal.
Mais il y avait quelques terrasses ouvertes là, dans les derniers jours de soleil.
Ouais.
Mais il y en a une qui faisait pitié. Là. À moins 12, là, on peut attendre un peu. Là.
Chemin de la Canardière, c'est tout le temps les premiers qui ouvrent la terrasse. T'as jamais passé dans ce secteur-là?
Ben oui, mais des terrasses, je n'ai jamais remarqué ça.
C'est une série d'immeubles à logement. Là. Puis là, les gens, ils sortent leurs petites chaises.
Ils restent attachés toute la journée.
Toute la journée. Lundi ou dimanche.
Il y en a un doux qui écoute la radio là, avec des lunettes de soleil, mais ces lunettes de soleil, c'est des lunettes de ski.
Tu veux?
Oui, je l'aime beaucoup.
C'est nos préférés, mais c'est ça. Les premiers qui ouvrent la terrasse, c'est les gars et les filles sur le chemin de la Canardière avec leur grosse bière, leur grosse quille.
Hey, des quilles! Ben ça se vend pas juste au Saguenay-Lac-Saint-Jean encore, avec le petit verre là, de verre, mais vraiment pas haut, puis le sel.
Ouais.
Je pensais que c'était juste là.
Ça se fait encore dans les tavernes, là. Fromage salé, bonne bière, chip, bonne bière.
Les œufs dans le vinaigre, ça, c'était bien populaire aussi quand j'étais dans un relais de motoneige.
Ouais, ça m'a jamais vraiment attiré, mais des Pringles salés, là, avec...
ton fromage salé, ta petite bière.
Ou des Crispies, sérieux, là... C'est quelque chose.
À te raconter des potins de la ville avec le monde au bord.
Exact. On est de même. Hey, allons voir notre correspondant sur l'île de Laval, Nicolas Gagnon, de la Fédération canadienne des contribuables. Comment ça va, Nicolas Gagnon?
Ben, ça va super bien, vous autres.
Oui, on est très content de te jaser. T'as passé un beau week-end?
Oui, ben, c'est assez tranquille, comme à peu près toutes les régions du Québec. Il pleuvait, il n'y a pas... petite sortie familiale, puis sinon on a profité pour continuer à travailler un peu sur certains dossiers, donc c'est pas mal ça, mais rien de très impressionnant. Puis vous, de votre côté, c'était pas pire comme week-end?
Ouais, ça a eu du bon sens. Nous autres, on est en tournoi de hockey, c'est ça qu'on jasait avec Denis, puis Pascal, elle s'est occupée de sa santé.
Ouais,
elle a fait dodo samedi, dimanche.
Sauf vendredi, j'étais allée à un show que la foule était autant des gens de 7-8 ans jusqu'à peut-être 37. Particulier.
C'est quoi ce gap-là? C'est quoi le show?
C'est Arthur l'aventurier.
C'était des parents le 37. Non, mais il y avait des parents accompagnateurs, puis j'ai croisé notre collègue Nate, c'était Fred. C'est un gars qui vient de chez vous, là, ou presque, Longueuil. C'est pas trop loin quand même, c'est l'autre bord. Mais le gars roule sa bosse, s'en va dans une tournée européenne. Il est vraiment, vraiment bon, mais il est arrivé sur ses réseaux sociaux. Ça fait en sorte que dans les derniers mois, les jeunes l'ont découvert, ils ont trippé dessus. Comprennent pas tout ce qu'il dit, puis ça fait en sorte qu'ils se pointent dans leur spectacle, mais que t'as une foule hétéroclite assez malaisante et surprenante.
Ah oh ben, ça doit être une belle expérience quand même.
J'ai tout aimé.
Oh.
Tu nous as-tu perdu, Nick?
Non, je suis toujours là, pardon.
Ouais. Moi, je pensais que c'était Arthur l'aventurier sur l'acide. ça aurait été malade.
Hey, j'ai juste trouvé ça drôle quand Pascal a dit qu'il était du même bout que moi à Longueuil, parce que Laval puis Longueuil...
J'ai dit Laval puis l'autre bord.
Ouais, ben c'est ça. On est de même. Hey, on parle avec la Fédération canadienne des contribuables. Il y a des sujets qui vous concernent cette semaine, Nick. La hausse des salaires des députés à la Chambre des communes. Un député fédéral derrière ban, c'est autour de 200 000 piastres par année qui gagne.
Oui, c'est à peu près ça. En fait, présentement, un député là, à la Chambre des communes, il fait environ là, 203 000 $ par année. Là. Donc, c'est quand même un très bon salaire. Puis ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de responsabilité parlementaire. Donc, quelqu'un qui s'en tire assez bien. Il va quand même travailler. On va pas non plus dire qu'il est là pour rien, mais il n'en reste qu'il n'y a pas les responsabilités d'un chef, par exemple, de l'opposition, ou il n'est pas non plus sur des comités. Fait que, ceci étant dit, c'est très bien payé. Puis pourquoi on en parle? Bien, parce que demain, c'est le 1er avril, puis on a toujours cette fameuse célébration des fameux poissons d'avril. Puis il y en a quand même trois poissons d'avril qui nous est réservé en tant que contribuables canadiens. La première, c'est ça, c'est les fameuses augmentations de salaire des députés à la Chambre des communes qui, je rappelle, ont pas siégé cette année. Là. Dès le 6 janvier, le Parlement était prorogé avec la démission de Justin Trudeau. Puis après ça, Mark Carney a été élu. Il a jamais rouvert le Parlement. Puis il y a à peu près deux semaines, même pas une semaine et demie, il a déclenché les élections. Donc, jusqu'à maintenant et jusqu'à ce qu'on rouvre le Parlement, ils n'auront pas siégé. Mais ils ont quand même, ils vont encaisser dès demain une augmentation de salaire qui est d'environ 3,9 %, qui se retrouve aussi être leur sixième augmentation de salaire en 5 ans. Donc, ils n'ont même pas besoin de la voter, puis ils n'ont même pas besoin de siéger au Parlement, ça a l'air, pour l'encaisser malgré tout. Puis c'est encore une fois les contribuables qui payent ces privilèges-là. Alors que les députés veulent pas, il y a même si ils sont présentement sur la campagne électorale, ils sont en train de se promener, faire du porte-à-porte, tout le kit, mais ils ont quand même droit à leur salaire jusqu'à la fin de leur mandat si jamais ils ne sont pas réélus. Puis s'ils sont réélus, ben ils auront droit à leur salaire et bonifié par-dessus le marché.
Oh boy! C'est aberrant quand même en tant que contribuable de voir, tu sais, il y a eu l'augmentation de salaire au niveau des députés à l'Assemblée nationale, là, de voir que les députés à la Chambre des communes vont passer au cash pareil, alors qu'on est dans le trou comme pas possible au Canada, là, c'est aberrant et c'est frustrant en tant que contribuable. On en parlait tantôt avec Pascal puis Denis. Tu sais, il y a des gens là, qui travaillent temps plein, là, un couple temps plein, ils n'ont pas des gros salaires, mais c'est des salaires qui sont quand même respectables, là, entre 20 et 30 $ de l'heure, puis en bout de ligne, ils ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Ils sont pas capables d'avoir une maison, ou si oui, c'est parce qu'ils ont acheté leur maison il y a de ça 10, 15, 20 ans. C'est humiliant de pas être capable de bien gagner ta vie, puis de voir que de l'autre côté, on va chercher des gros salaires dans une job qui, on va se le dire, quand tu es arrière-ban, c'est pas la job la plus incroyable de l'humanité.
Ça dépend comment tu l'as fait, mais encore là, à 200 000, je trouve quand même que c'est un salaire où, malgré l'inflation et le coût de la vie, tu pourrais te serrer un peu la
ben
ceinture
oui.
dans des moments économiques comme on vit actuellement. Puis ces couples-là que tu décris, Yannick, eux se sont peut-être fait dire par leur employeur « Hey, cette année, on pourra pas vraiment vous augmenter, c'est trop difficile, puis on veut pas fermer la shop, mais on regardera peut-être... » dans 2-3 ans, si on est capable de faire quelque chose. C'est là où c'est ahurissant. Là.
Ben effectivement, puis en plus, c'est une opportunité manquée pour les députés de démontrer un geste de solidarité envers les gens, puis de dire, écoutez, on sait que vous devez vous serrer la ceinture, ben on comprend ça, puis on va faire pareil.
On va remettre ça.
Ça, c'est sans compter. C'est ça. Sans compter que s'ils font leur 6 ans, je pense que c'est un minimum de 6 ans, il y a la pension à vie qui arrive avec ça.
Oui, exactement. Ils ont droit à une pension à vie qui est calculée en fonction de leur salaire. Là, c'est environ, dans le fond, eux, ils vont quand même cotiser à la hauteur d'environ 4% là, donc chaque année pour leur salaire. Puis après ça, ben ils ont quand même aussi droit à certains avantages supplémentaires, comme entre autres Justin Trudeau, que lui, après, en fait, un premier ministre, après un mandat de 4 ans, a droit à une seconde pension dès l'âge de 67 ans. Donc, on peut y aller en cumulatif. Ceci étant dit, il y a quand même des opportunités. Ben, non seulement c'est une opportunité manquée, mais c'est une opportunité qui a déjà eu lieu puis qui a été saisie par un autre gouvernement auparavant, en 2011 et 2013, si je me rappelle bien, ou 2010 et 2013, pardon, quand c'était le gouvernement conservateur de Stephen Harper. On se rappelle à l'époque, on avait quand même une récession économique, ça allait pas bien, il y avait eu beaucoup de pertes d'emplois et tout ça. Et malgré tout, en fait, les députés à ce moment-là ont décidé d'envoyer un message clair, puis ont gelé le salaire des élus, ne serait-ce que pour 3 ans, le temps qu'on sorte de la récession. Là, pour les députés, présentement, à la Chambre des communes, je tiens à rappeler qu'au courant des 5 dernières années où ils ont empoché des augmentations de salaire, on a quand même traversé une pandémie, la pire crise inflationniste des 40 dernières années, puis là, on est dans une guerre tarifaire avec les Américains. Et malgré tout, ben non seulement les députés ont profité à chaque fois d'une augmentation de salaire alors qu'il y avait des pertes d'emploi puis des gens qui perdaient leur business, mais d'un autre côté, on n'a pas non plus essayé de refuser cette augmentation. C'est dommage parce qu'on a quand même fait beaucoup de bruit. On a fait des sondages avec Léger, puis on a fait des communiqués. Et malgré tout, il n'y a aucun des 338 députés présentement à la Chambre des communes, tant conservateurs, libéraux, bloquistes, néo-démocrates ouverts, qui ont pris le temps de dénoncer cette augmentation de salaire qui est indécente dans les circonstances. Et faut le rappeler, 203 000 $ pour un député, non seulement c'est quand même très bien, surtout pour un député d'arrière-ban, mais il s'avère être aussi le deuxième élu le mieux rémunéré sur Terre. Parce que présentement, les politiciens les mieux rémunérés
sur Terre.
C'est au Congrès, en fait, dans la Chambre des congrès américains, alors que à la Chambre des communes, on est deuxième. Donc c'est quand même très généreux, disons.
Incroyable. Puis est-ce que quand est-ce que la taxe carbone là, ailleurs au Canada est abolie? On est-tu dans les dates là?
Oui, ben c'est en fait ça a été aboli entre guillemets lorsque d'un coup de crayon là, Mark Carney a décidé de retirer l'intensité de la taxe carbone.
C'est applicable quand?
Ben c'est applicable dès demain. En fait,
demain.
Un autre poisson de...
Demain
oui,
pour le 1er avril. Fait, à partir de demain, le Québec va être la seule province du Canada à avoir sa taxe carbone. Tout le monde va descendre de 17-18 cents le litre, puis nous autres, on va la garder, cette fameuse taxe carbone-là.
Exactement. Donc ça, c'est tout un poisson d'avril pendant que les autres vont voir le prix de l'essence quand même diminuer. Je ne sais pas si ça va diminuer de 18 cents présentement. Et c'était supposé même augmenter le 1er avril, mais en ce moment, le prix du carbone par litre d'essence au Canada, c'est environ 18 cents. Par contre, est-ce que le prix de l'essence va diminuer de 18 cents? Il y a quand même d'autres facteurs qui ont une influence sur l'essence, mais une chose est sûre, ça va baisser. Et d'ici les 24 prochaines heures, et le Québec, ben poisson d'avril, on est la seule place au Canada. Pour quelle raison? Non seulement, ben, il y a les huit autres provinces, en fait, qui ont décidé d'abolir la taxe sur le carbone parce que le fédéral l'a fait. Donc, eux, ils ont juste à suivre. Mais en plus, la Colombie-Britannique, qui, je rappelle, est la pionnière au Canada, qui ont amené leur première taxe carbone de leur côté dès 2008. Ils ont décidé d'abolir leur taxe carbone tout récemment. Et ce, malgré le fait que de leur côté, ils ont quand même aussi un déficit qui représente encore une plus grosse proportion de leur économie que ce qu'on a au Québec. Donc, faut dire, malgré tout, ils ont décidé de suivre le pas parce qu'ils voient à quel point c'est pas une bonne chose pour les consommateurs puis que ça n'a aucun impact environnemental. C'est uniquement punitif. Donc, eux aussi vont suivre le pas du fédéral puisque le fédéral leur permet. Donc, dès demain, le Québec est la seule place qui refile une taxe carbone aux consommateurs via son système de plafonnement et d'échange des droits des émissions qui est lié au marché de carbone avec la Californie. Et pour ceux qui s'intéressent, ça représente environ 10,7 cents par litre d'essence. Donc, si vous avez une fourgonnette, une minivan familiale, et que vous faites le plein à chaque semaine, c'est environ 8 $ par plein que vous payez en taxe carbone. À la fin de l'année, c'est quand même pas loin de 400 $ par véhicule ou par famille, selon les cas. Donc, c'est un prix qu'on paye réellement. Au Québec, on n'arrête pas de dire qu'on paye pas de taxe carbone parce qu'on joue sur les mots.
Oui.
Mais à la fin, on paye le prix et on va être les seuls à le payer. Donc, c'est pas très avantageux et ça nous met dans une très mauvaise posture.
À qui ça profite, cette taxe carbone-là? Parce que, bon, oui, on va nous dire « Ah, c'est l'environnement », mais à qui ça profite? Est-ce que le gouvernement se met de l'argent dans les poches? Puis où va cet argent-là par la suite?
Ben en fait, ça profite quasiment exclusivement au gouvernement, sous le couvert que ça profite à la lutte au changement climatique. Et ça passe par un fonds, j'ai toujours le fonds vert en tête, mais c'est plutôt le fonds à l'électrification et à la lutte au changement climatique. J'ai pas le bon terme, mais c'est à peu près ça l'acronyme. Et à la fin, en fait, au courant des dernières années, depuis 2013, où est-ce que le gouvernement du Québec a mis en place le fameux système de plafonnement la première fois sous le gouvernement de Pauline Marois, ben on a été chercher quand même pas loin de 9,5 milliards de dollars via des paiements en fait là de des parts de carbone parce que c'est un système assez complexe, c'est-à-dire que dans le fond les entreprises qui émettent des émissions dès qu'elles dépassent un certain seuil doivent acheter des parts de carbone qui sont échangées sur un marché avec la Californie. Donc là après ça elles refilent le prix aux consommateurs et ce prix-là comme je disais plus tôt c'est environ 10 cents par litre d'essence, c'est variable. Et surtout, c'est appelé à augmenter, là, parce qu'il y a dans le système comme tel, on augmente le prix minimum du carbone. Et donc, d'ici 2030, ça devrait même doubler. Fait que non seulement on est la seule place au Canada qui vont avoir une taxe sur le carbone, mais on va avoir un prix qui va augmenter inévitablement avec le temps. Donc, c'est encore moins avantageux quand on sait ça. Et au final, oui, le gouvernement du Québec espère aller chercher de l'argent là-dedans. Et, ben, comment est-ce qu'il lutte avec les changements climatiques? Ben, c'est à travers de comment cet argent-là est utilisé à des fins de subvention, de financement de différents projets. Les mesures d'atténuation au niveau des émissions, je ne sais pas, en fait, il n'y a rien qui démontre jusqu'à maintenant que ça a un impact environnemental, mais on peut voir l'impact économique puis on peut voir l'impact sur le portefeuille des gens.
Tu sais que je suis un journaliste d'enquête et je vais toujours au fond des choses. Je me souviens du fameux fonds vert, puis il y a des auditeurs qui me le font repenser. Là. On en avait parlé de toi et moi, mais en 2019, le 7 octobre, il y a eu un papier qui s'est écrit dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, sous la plume d'Annabelle Blais. Et on avait dépensé avec l'argent des Québécois là, qu'on a mis dans le fonds vert, ça c'était une coupe de scène là, qu'on paye à chaque litre d'essence, 150 000 $ qu'on avait envoyé au Gabon. Est-ce que tu te souviens pourquoi on avait envoyé ce 150 000 $ du fonds vert québécois au Gabon?
Si je me trompe pas, puis ça c'est une histoire qu'on avait effectivement parlé il y a pas si longtemps, je pense que c'était pour une clôture ou quelque chose de ce type-là pour les gorilles.
c'était pour un enclos à gorilles au Gabon.
Fait que je sais pas à quel point ça a réduit les émissions. Là, cet argent-là, je pense que c'est une affaire comme 150 000 $ qu'on avait envoyé à l'étranger pour ce genre d'initiative-là.
Ouais.
Puis c'est pas la seule, là. Honnêtement, on pourrait continuer à fouiller. Le fond vert a changé de nom depuis ce temps-là. Puis il y a un peu plus, ils sont un peu plus, comment dire, opaques par rapport à l'utilisation de l'argent public. Mais je donne un exemple comme ça. Les fameux autobus de Lyon électrique étaient acquis par différentes municipalités, par différentes commissions scolaires et compagnies. Et des compagnies au Québec pouvaient passer par le fonds vert justement pour demander des subventions et ensuite acheter ces autobus-là ou ces camions-là. Donc, c'est au final, ça sert essentiellement à faire des subventions. Est-ce qu'on peut vraiment démontrer qu'il y a un impact sur les changements climatiques ou sur les émissions au Québec? Malheureusement, c'est beaucoup trop nébuleux à ce niveau-là. Mais comme je dis, l'impact fiscal est là. Puis on espère que François Legault va suivre le pas, parce que je vous rappelle, l'année dernière, en fait, le gouvernement du Québec a été très rapide pour augmenter l'impôt sur le gain en capital, sur le principe qu'il fallait s'harmoniser avec le fédéral, dans le sens que c'est plus facile quand on fait la même chose que ce que Ottawa fait. Mais là, dans ce cas-ci, vu que Ottawa vient de suspendre la taxe sur le carbone, ce serait bien que le Québec s'harmonise avec Ottawa et le reste du Canada, puis qu'on se débarrasse de cette taxe carbone-là une fois pour toutes.
Tu sais, moi, le fonds vert, si ça permet, je sais pas, moi, de donner des subventions à des gens qui travaillent sur des nouvelles technologies qui vont nous permettre de moins prendre d'énergie. Exemple, je sais pas, pour des fameux moteurs à essence, là, on envoie de l'argent à des ingénieurs, des experts qui travaillent sur un moteur à essence qui consomme à peine, tu sais, qu'on est capable de faire avec une grosse voiture un 3 litres au 100. Moi, je dis, OK, ben mon argent sert à ça.
Des initiatives dans les établissements scolaires, par exemple, pour la future génération, les intéresser ou encore les développer là-dedans.
Le fonds vert, je suis pour ça, mais quand on apprend que notre argent s'en va au Gabon pour une clôture à gorille, tu t'aperçois que notre argent est géré comme nos infrastructures routières sont gérées, comme notre système de santé est géré. On jette de l'argent, puis nous autres, ben, on est le puits sans fond de tout leur cash qu'ils peuvent dépenser à qui mieux. C'est incroyable. Je sais que tu es passé à Québec dans les derniers jours, Nick. Le pont Pierre-Laporte, là, on a refait l'asphalte l'an passé, l'autre année d'avant, puis l'autre année d'avant. Puis si tu passes encore aujourd'hui, là, tu vois le métal au travers de l'asphalte sur le pont Pierre-Laporte quand tu prends direction sud. Là. Donc, tu es sur la rive nord, tu prends direction sud sur la porte, puis tu vois les plaques de métal du pont Laporte. Il n'y a même plus d'asphalte. Puis ça, on refait ça année après année. Bien, si le fonds vert pourrait servir à, je sais pas, moi, trouver un moyen justement de ne pas refaire l'asphaltage à toutes les 3-4 mois sur nos routes, ça pourrait être déjà ça. Ben non, on envoie de l'argent au Gabon. C'est du grand n'importe quoi. T'as l'impression qu'on s'en sortira jamais, tu sais.
Ben effectivement, puis en plus le fonds qui s'occupe en bonne partie de l'état de nos routes au Québec, c'est le fonds qui est financé par la taxe qu'on paye sur l'essence, là, la taxe provinciale d'environ 19,2 cents. Puis c'est drôle parce que récemment, ils sont arrivés avec le calcul que ben si on vend de moins en moins d'essence parce que il va y avoir de plus en plus de voitures électriques, ben on risque de manquer de financement pour ce fonds-là pour s'occuper de nos routes. Donc déjà que l'état est assez pitoyable, puis ça c'est généralisé, je veux dire, moi je suis sur la rive nord de Montréal, puis on vit dans la même réalité qu'on parle de l'état de nos infrastructures puis de nos routes en général, c'est pitoyable et ça revient à chaque année. Donc, il y a quelque chose à faire avec ça. Mais finalement, le gouvernement, son simple réflexe dans ce cas-ci, c'est de dire, bon, on va devoir taxer les voitures électriques, considérant qu'il y aura de plus en plus de voitures électriques et de moins en moins de voitures à essence. Et c'est ce qu'ils mettent en place dès 2027. Oui. Le fameux 125 $ par voiture électrique, ça sert à s'occuper de l'état de nos routes. Mais je suis pas mal sûr que quand on regarde le modèle actuel, ça va pas nécessairement améliorer les choses, mais quand tu reprends, par exemple, la taxe carbone, est-ce que ça serait mieux si l'argent était utilisé à des fins de subvention plus chirurgicales, là, ou est-ce que ça sert à quelque chose dans la recherche et le développement?
Exact.
Je dirais que la meilleure approche, ça serait carrément de l'abolir, la taxe carbone, parce que pour l'instant, l'impact que ça a, c'est à peu près 0,3 ou 0,4 du PIB que ça retient. Mais ça fait en sorte que le Québec est vraiment l'endroit où est-ce qu'au niveau des investissements et du poids fiscal, on est les moins avantageux. Et ça nuit, en fait, à la volonté des investisseurs locaux et étrangers à venir ici. Ne serait-ce que cette taxe-là n'aide pas plusieurs entreprises à considérer le Québec. Mais en plus, si on dit qu'ailleurs, au Canada, on n'avait pas besoin de payer cette taxe carbone-là d'une quelconque manière, bien, il y a plusieurs entreprises québécoises qui peuvent être même être intéressées à bouger vers le reste du pays. Donc, c'est pour ça qu'on est peut-être mieux se débarrasser de la taxe, tout simplement, puis de retirer ce poids fiscal-là, surtout dans le contexte où est-ce qu'on est dans une guerre tarifaire, puis la productivité de nos entreprises et de notre économie est mise à mal.
Ouais, je te suis à 100% là-dedans. Puis, tu sais, là, on a commencé à hypothéquer les propriétaires de véhicules électriques, mais la taxe kilométrique s'en vient, les amis. Je sais pas comment ils vont vont mettre ça en place, mais elle s'en vient à grands pas. Plus vous habitez loin de votre lieu de travail, plus vous allez payer. Si tu as voulu, par bonheur d'avoir des enfants puis de vouloir leur donner un lopin de terre, si tu as voulu aller t'établir à l'extérieur de la ville, ben tu vas devoir payer une taxe supplémentaire pour le bonheur que tu as voulu donner à tes enfants d'avoir un beau terrain pour jouer. La taxe kilométrique s'en vient, puis ça va être les propriétaires d'auto-électriques qui vont y goûter, là.
Absolument, c'est ça le désavantage avec la fameuse taxe kilométrique. Je ne pense pas, par exemple, qu'elle va revenir au niveau provincial, ne serait-ce qu'à cause du coût que ça implique au niveau tant politique, que je veux dire, veux pas. On sait que c'est une politique qui va être pas mal combattue par toutes les régions possibles du Québec. Peut-être qu'à dans certains endroits comme Montréal, ou peut-être la rive sud de Montréal, ces endroits-là, peut-être, là, ou dans le centre-ville de Québec, peut-être que l'idée d'une taxe kilométrique va être séduisante surtout pour les administrations municipales, parce que c'est elles qui essaient d'aller chercher des revenus supplémentaires présentement à ce niveau-là. Puis on l'a déjà vu avec, entre autres, l'augmentation de la taxe sur l'immatriculation. Donc, essentiellement, la taxe kilométrique pourrait être la prochaine étape. Puis on sait que Québec, je suis un peu moins au courant, mais on sait que Montréal considère encore ce plan-là. Donc, oui, il faut rester vigilant et il faut quand même continuer à dénoncer surtout qu'est-ce que le gouvernement fait avec notre argent. Parce que à la fin, c'est ce gaspillage-là, c'est là-dessus qu'il va se baser pour justifier d'autres taxes. C'est-à-dire, on n'a plus d'argent, donc il nous en faut davantage. Mais commencez par bien utiliser l'argent que vous avez avant de nous en demander davantage, qu'on devrait s'en tirer à bon compte.
La machine veut votre bien et elle l'aura.
Pis c'est un peu ça qui rend les gens sceptiques quant à la politique. Parce que, puis je vois que c'est divisé au 88-971-102. En passant, vous pouvez nous envoyer vos commentaires ou ce que vous en pensez à tout moment dans l'émission. Mais les opposés se parlent en ce moment. Plusieurs prônes électriques sont contents. Je ne sais pas si, mettons, ils vivaient cette taxe-là, ils auraient ou pas le même discours qu'actuellement. Sauf que c'est pas le fait d'en imposer des taxes. C'est des taxes qui changent la vie de tout le monde au quotidien, qui font vraiment des filets sociaux intéressants, qui ont un impact extrêmement important aussi sur notre économie au Canada, au Québec ou dans nos villes. Cependant, le fait de ne pas regarder ce qu'il y a derrière et comment c'est exploité est peut-être là le problème. Puis je pense que la conversation ne doit pas se fermer à est-ce qu'on est en accord ou pas. Puis c'est ça qui se passe en ce moment, Nicolas, là.
Ben, je suis totalement d'accord. Puis, mais malheureusement, le gouvernement, il garde le pied sur l'accélérateur pour à peu près tous ses projets d'électrification. Puis, au niveau de l'interdiction, par exemple, des voitures à essence et au diesel pour 2035, il garde le cap là-dessus. Il garde encore aussi le cap sur tous les problèmes de subvention aux voitures électriques, sans pour autant se soucier de l'impact fiscal que ça va avoir pour l'ensemble des finances publiques. Donc, ce qui dérange le plus avec le gouvernement actuel, puis ça, on l'a vu autant dans le budget qu'avant et même possiblement après, c'est à quel point il y a un certain dogmatisme au niveau des politiques publiques, puis c'est pour ça que les gens perdent parfois confiance dans les institutions. Non seulement ils se sentent en fait sans pouvoir par rapport à ça, ils ont juste l'impression de pouvoir s'exprimer une fois ou quatre ans, mais en plus quand ils prennent le temps de s'exprimer le plus pacifiquement que possible, ils prennent le temps de participer, que ce soit aux assemblées générales ou sinon aux conseils municipaux, ben ils se rendent compte que leur voix n'est pas entendue, même s'ils sont majoritaires plutôt à dénoncer ces politiques-là. Donc, à la fin, il va falloir que les politiciens répondent à ce cynisme-là puis fassent en sorte qu'ils écoutent davantage la population.
C'est toujours un plaisir, Nicolas Gagnon.
Toujours un plaisir. À bientôt.
Merci. On jase à chaque semaine avec Nick et de la Fédération canadienne des contribuables. Vous voulez en savoir plus sur cette belle fédération-là, c'est contribuable avec un S.ca, contribuable.ca. Non, mais c'est hallucinant. Je ne sais pas si tu es passé sur le pont Pierre-Laporte, là, mais tu l'as-tu vu le métal? Le pont Pierre-Laporte, là, à 3-4 endroits, si tu pars de la rive nord à la rive sud, là, il est sur le métal.
Ça, c'est un point. Puis encore là, le fond vert, moi, j'ai vu là, des affaires dans le nord actuellement qui nous concernent ici à Québec par rapport à l'implantation d'une mine. On a parmi les meilleurs minerais au monde au Québec, OK? Mm-hmm. Navic est sur un territoire où il y a une portion qui est administrée gouvernementalement parlant, là, parce que la séparation des territoires, je ne rentrerai pas là-dedans, mais cette partie-là où il y a une implantation de mine qui est en train d'être faite et discutée a quand même une particularité où on aurait pu aller dans les fonds verts X, Y, Z pour protéger les territoires de chasse, les territoires de